Imaginez un instant la scène. Une équipe d'intervention commence à abattre une simple cloison dans un immeuble de bureau des années 80.
Le genre de chantier ultra classique, oui.
Exactement. Le chef de chantier est serein parce que le client lui a fourni un épais dossier amiante avant de démarrer. Sauf qu'à la première frappe...
La première frappe, c'est là que tout bascule en général.
Voilà. La poussière s'échappe, elle vient se déposer sur les tenues des ouvriers. Et cette poussière, elle est saturée de fibres toxiques. L'entreprise avait pourtant les documents.
Mais ils se sont trompés de documents.
C'est ça. Le client pensait être en règle, l'entreprise aussi, mais tout le monde s'est trompé de diagnostic. Et les conséquences sanitaires et surtout pénales vont être désastreuses.
C'est vraiment le scénario cauchemar par excellence. Et le pire, c'est que ça se produit encore souvent juste à cause d'une incompréhension de la paperasse. Il faut bien comprendre qu'en matière de retrait d'amiante, la sécurité, elle ne commence pas au moment où on met son masque respiratoire.
Elle commence bien avant ?
Absolument. Elle commence des semaines plus tôt, derrière un bureau, pendant la lecture des rapports.
Et c'est précisément ce qui motive notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Nous allons décortiquer un document qui a justement été créé pour éviter ce genre de désastre. C'est la règle technique 01, ou RT01 pour les intimes.
La fameuse RT01, oui.
C'est un document de référence essentiel qui a été élaboré conjointement par le SIRTA et le CEDDE. L'objectif, c'est vraiment de donner aux entreprises de désamiantage les clés de lecture indispensables pour comprendre et même critiquer un rapport de repérage amiante avant travaux, le ART.
C'est une véritable bible pour la filière de la sous-section 3.
En plongeant dans ces sources, j'ai réalisé que ce n'est pas qu'une simple notice. C'est un vrai bouclier. Un bouclier juridique et technique pour les professionnels.
C'est exactement la bonne manière de le voir. Mais du coup, pour bien saisir la force de ce bouclier, il faut regarder d'où il vient. La RT01, elle n'est pas sortie de nulle part.
Elle trouve ses racines dans le PRDA, c'est bien ça ?
C'est ça. Le plan de recherche et développement amiante, l'État français a lancé ça en 2015. À l'époque, les pouvoirs publics voulaient massivement pousser la rénovation énergétique des bâtiments.
Mais ils se sont heurtés à un mur.
Le mur de l'amiante, oui. Il y en avait partout. Il fallait donc impérativement sécuriser et homogénéiser les pratiques sur le terrain. Le pilotage de cette règle a été confié directement aux professionnels, donc le CIRTA et le CEDRE.
Et ce qui m'a vraiment frappé dans les documents, c'est la préface. La RT01 est préfacée par la Direction Générale du Travail, la DGT.
Oui, c'est un point fondamental.
La DGT y salue carrément la création de véritables DTU, donc des documents techniques unifiés, pour le retrait de l'amiante. Mais concrètement, pourquoi est-ce que l'État s'implique là-dedans ? Ça change la donne sur le terrain face à un client ?
Ça change tout. En fait, mettez-vous à la place d'une entreprise de traitement de l'amiante. Elle répond à un appel d'offres. Elle s'aperçoit que le rapport du diagnostiqueur est incomplet.
Ce qui arrive souvent.
Très souvent. Et là, le donneur d'ordre, le client, peut être tenté de mettre la pression. Il va dire un truc du genre « Écoutez, ne compliquez pas les choses, les autres ne posent pas de questions, chiffrez avec ce que vous avez ».
Et là, l'entreprise se retrouve coincée.
Sans la RT01, elle est isolée, oui. Mais avec la RT01, préfacée par la DGT, l'entrepreneur a une réponse imparable. Il peut dire que ce n'est pas lui qui est pointilleux, mais que c'est l'État et la profession qui l'exigent.
C'est un argument d'autorité massif. Ce ne sont pas juste des normes abstraites, ce sont les règles de l'art validées par l'administration.
Exactement. C'est pour ça que c'est un bouclier.
D'accord. Mais comme pour toute règle de droit, il y a un périmètre d'application très strict. Définir ce domaine, c'est un peu comme fixer les règles de compétence d'un tribunal. En dehors de ce périmètre, la règle ne s'applique pas.
C'est une excellente analogie.
Et dans les sources, on voit que la RT01 concerne la réhabilitation ou la démolition d'immeubles bâtis. Mais elle exclut pour l'instant d'autres secteurs, le génie civil, les infrastructures de transport, les navires, les aéronefs. Pourquoi cette mise à l'écart ?
C'est une question de prudence et surtout de mécanique des matériaux. Un bâtiment, par nature, c'est statique. L'amiante y vieillit d'une certaine façon.
D'accord.
Mais prenez un navire. Un navire subit des torsions permanentes en mer. Il y a des vibrations moteurs intenses, un environnement salin très agressif.
Ah oui, donc le matériau ne réagit pas du tout pareil.
Pas du tout. Les matériaux amiantés se dégradent différemment. Du coup, les techniques de confinement qu'on utilise dans le bâtiment ne tiendraient pas. Et les méthodes de prélèvement pour le diagnostic sont radicalement autres.
Donc une entreprise de désamiantage qui voudrait se diversifier sur de vieux chalutiers ne peut pas juste appliquer la RT01 ?
Surtout pas. Ce serait une erreur d'analyse fatale. Faute de retour d'expérience suffisant, on ne transpose pas les règles d'un immeuble à un viaduc autoroutier ou à un bateau.
C'est fascinant, et ça oblige vraiment à une grande vigilance. Surtout si un chantier de démolition de bâtiments déborde sur des réseaux enterrés sous la voirie, là, on bascule dans le génie civil.
Absolument. La frontière est parfois mince sur un même chantier.
Toujours dans ce périmètre, il y a la question du vocabulaire. Les sources insistent énormément là-dessus pour éviter toute ambiguïté juridique. Et je dois dire que j'ai bloqué sur un point, la différence entre un sondage et un prélèvement.
C'est un classique. Et la nuance modifie toute l'évaluation des risques.
Concrètement, sur le terrain, c'est quoi la différence?
Eh bien, un sondage, c'est une action mécanique. C'est souvent destructeur. L'opérateur va percer ou gratter un bout de mur pour voir comment il est fait à l'intérieur, ou juste pour vérifier si la matière ressemble à un matériau qu'il connaît.
C'est purement visuel, en fait.
Voilà. Alors qu'un prélèvement, c'est l'acte minutieux de récupérer un échantillon représentatif de cette matière, on l'emballe de façon étanche et on l'envoie à un laboratoire d'analyse pour avoir une preuve scientifique.
D'accord, donc si je lis dans un rapport « l'opérateur a sondé », je pourrais croire à tort qu'il y a eu une analyse validant l'absence d'amiante.
C'est le piège. Un sondage ne prouve rien scientifiquement. Si on confond les deux, on part sur de très mauvaises bases.
Ce qui nous amène au plus gros piège de tous. En lisant la RT01, on se retrouve face à une vraie soupe à l'alphabet. DAPP, RAD, DTA, RAT. Et ça me ramène à notre équipe de chantier du début de l'émission.
La fameuse confusion entre le DTA et le RAT.
Exactement. Le DTA, c'est le dossier technique amiante. Et le RAT, le repérage avant travaux. Je vous pose la question de manière très directe. Si un donneur d'ordre me fournit uniquement un DTA de 300 pages pour lancer un gros chantier de réhabilitation, est-ce que je dois refuser de commencer avant?
Vous posez vos outils tout de suite. C'est la ligne rouge absolue de la réglementation.
Même s'il y a 300 pages d'informations.
Même si on a 1000. Un DTA, c'est simplement le carnet de santé historique du bâtiment. Ça liste les matériaux amiantés visibles, les états de conservation, les petites réparations passées.
Donc c'est utile pour la maintenance courante.
Voilà, c'est parfait pour le gardien de l'immeuble ou un plombier qui vient changer un joint. Mais un RAT, le repérage avant travaux, c'est l'IRM avant une intervention chirurgicale lourde.
J'aime beaucoup cette image de l'IRM.
Parce que c'est ça, en fait. Le RAT répond à un programme de travaux très précis. Il va dire, puisque vous allez abattre ce mur en particulier, on a cherché en profondeur, voici les matériaux impactés, y compris ceux qui sont complètement cachés à l'intérieur de la paroi.
Chose que le DTA ne fait pas du tout.
Le DTA ne cherche pas ce qui est invisible. Donc si vous démolissez avec juste un DTA, vous allez forcément percer des couches cachées, gorgées d'amiante qui n'étaient répertoriées nulle part. Et là, c'est la catastrophe sanitaire.
Le RAT est donc le seul document valable. Mais alors, quelles sont les obligations des différents acteurs pour produire ce RAT? Est-ce que l'entreprise de désamiantage peut être tenue responsable si ce diagnostic est mal fait?
Non. Et c'est un principe qu'il faut morteler. Le donneur d'ordre, donc le propriétaire ou le maître d'ouvrage, a la responsabilité légale de commander ce RAT.
À qui?
À un opérateur de repérage, indépendant, certifié avec mention. Et cet opérateur est le seul responsable de l'exhaustivité de ses recherches.
Alors, quel est le rôle de l'entreprise de retrait là-dedans?
L'entreprise, elle a un rôle de filet de sécurité ultime. Elle a un devoir de conseil. Elle doit faire une lecture critique de ce RAT, pointer les incohérences et alerter. Mais elle ne porte en aucun cas la responsabilité du repérage initial.
D'accord. Mais la réalité du terrain dépasse parfois la théorie. Il y a des cas d'urgence absolue.
Oui, les fameux cas de dispense.
Voilà. Imaginons un immeuble qui menace de s'effondrer après un sinistre. On ne va pas attendre 3 semaines qu'un labo analyse des échantillons. Comment l'entreprise doit-elle formaliser ça pour se protéger juridiquement?
Le Code du travail prévoit ces urgences. Si la sécurité ou la salubrité publique est en jeu, ou si la vie de l'opérateur de repérage est menacée par un risque d'effondrement, l'entreprise de désamiantage intervient sans rate.
Mais on ne fonce pas tête baissée pour autant.
Ah non, surtout pas. La règle est implacable. En l'absence de RAT, l'entreprise doit intervenir comme si la présence d'amiante était avérée absolument partout.
Donc le pire scénario devient la norme par défaut.
Exactement. Et ça doit être formalisé noir sur blanc dans le plan de l'entreprise. On déploie les protections collectives et individuelles de niveau maximum.
Ça doit coûter une fortune en temps et en matériel.
C'est pour ça que ça doit être acté avec le donneur d'ordre dès le départ. Face à l'inconnu, on sort l'artillerie lourde.
Bien, revenons à un cas plus classique. L'entreprise reçoit un RAT. sans dispense. Elle vérifie d'abord les éléments formels, l'intitulé, la certification de l'opérateur, s'il ne manque pas des pages.
Oui, la complétude du document, c'est la base.
Mais la RT01 va plus loin. Elle demande de vérifier que le programme de travaux couvre les impacts directs, mais aussi les impacts indirects.
C'est un concept crucial pour l'évaluation des risques.
Pour être sûr de bien comprendre, l'impact direct, c'est par exemple quand je retire un sol amianté au burin. Mon sol est l'impact direct. Mais l'impact indirect, ce serait quoi alors?
Le fait que les vibrations de mon burin pourraient faire pleuvoir des fibres d'un flocage amianté situé au plafond de la pièce du dessous.
C'est la parfaite illustration. L'opérateur de repérage qui est passé des mois avant ne pouvait pas deviner vos méthodes de travail. Il ne savait pas que vous alliez utiliser un outil générant de telles vibrations.
Ou que j'allais percer un mur pour fixer mon sas de confinement.
Exactement. C'est donc à l'entreprise d'anticiper ses impacts indirects à la lecture du RAT. Elle doit identifier ses manques. Et si ces zones n'ont pas été diagnostiquées, et que je dis au client qu'il faut faire un repérage complémentaire, s'il refuse de payer pour diagnostiquer le plafond du dessous, comment on gère ce blocage?
L'entreprise n'a pas le choix, elle doit exiger ce repérage. Si le donneur d'ordre refuse, on a l'obligation de suspendre l'opération.
On arrête tout, vraiment.
On arrête tout. On alerte par écrit le donneur d'ordre, la maîtrise d'œuvre, l'inspection du travail s'il le faut. Engager ses salariés dans une zone où l'impact indirect risque de pulvériser de l'amiante non repéré, c'est un manquement gravissement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il n'y a donc aucun compromis possible, hein ?
Aucun. Et c'est là que la préface de la DGT dont on parlait au début prend tout son sens pour tenir tête aux clients.
C'est très clair. Une fois que ce périmètre est validé, il faut analyser la matière elle-même. Les MPCA, matériaux et produits contenant de l'amiante, et la RT01 est intransigeante sur la désignation.
Oui, il faut refuser les approximations.
On ne confond pas une enveloppe de calorifugage avec le calorifugage lui-même, ni un flocage avec un enduit plâtreux. Pourquoi cette rigueur lexicale est-elle si littale?
Parce qu'un mot imprécis va entraîner une méthode de retrait inadaptée. Prendre un flocage pour un enduit dur, ça change totalement la façon dont la poussière va se comporter quand on va l'arracher.
Le niveau d'empoussièrement ne sera pas le même.
Pas du tout. La RT01 alerte aussi sur l'état de dégradation. Même si réglementairement ce n'est pas exigé dans un RAT de noter l'état de conservation, l'entreprise doit aller vérifier sur place.
Parce que ça peut changer.
Absolument. Un matériau diagnostiqué en bon état en janvier peut avoir été écrasé par des engins de chantier en septembre. Il devient hyper friable. L'état décrit dans le rapport, ce n'est qu'une photo à un instant T.
Ce qui m'amène à un autre concept des sources qui fait froid dans le dos. Les ZPSO. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Ah, le fameux effet tache de léopard.
Voilà. On parle d'enduit de lissage sous peinture, par exemple. Et les sources disent qu'un opérateur ne peut jamais déduire la présence d'amiante sur son simple jugement personnel. Il faut une analyse. Pourquoi c'est impossible à voir à l'œil nu?
C'est lié à l'histoire de la construction. Dans les années 70, l'amiante arrivait souvent en sac de poudre sur les chantiers. Les ouvriers faisaient le mélange avec l'eau eux-mêmes dans de grandes poubelles à la main ou au malaxeur.
Donc le dosage était complètement aléatoire.
Totalement artisanal. Résultat, sur un même mur, vous avez cet effet de tache de léopard. À un endroit précis, la concentration d'amiante crève le plafond et 20 cm plus loin, il n'y a plus rien.
D'où l'impossibilité de s'y fier à l'œil.
C'est ça. La RT01 rappelle l'arrêté de 2019. Le jugement visuel est strictement interdit pour déclarer un matériau amianté dans un RAT. Il faut une preuve, une analyse labo, un marquage fabricant ou un document historique formel.
Donc, face à un RAT qui utilise le jugement personnel pour une zone, l'entreprise fait quoi?
Elle exige la correction immédiate du document par les donneurs d'ordre. On ne bâtit pas un protocole de sécurité sur une impression visuelle.
Ce qui nous pousse vers la fin du rapport de repérage, là où se trouve la vérité scientifique, les annexes techniques et les rapports de laboratoire.
Sous accréditation COFRAC, obligatoirement.
Oui, c'est précisé avec la norme NFX46020, l'entreprise doit vérifier la traçabilité absolue entre le croquis de l'opérateur et le résultat du labo. En cas de doute, on prend le scénario le plus défavorable. Mais j'ai une question très technique. Que se passe-t-il avec les matériaux multicouches?
C'est un sujet très épineux.
Imaginons un enduit ciment recouvert de deux couches de peinture différentes. Si le laboratoire n'arrive pas à dissocier ces couches lors de l'analyse, comment l'entreprise intègre ça dans son plan de retrait?
C'est un point critique, avec des répercussions financières énormes. En théorie, le labo doit séparer les couches pour dire, par exemple,
La peinture est saine, mais l'enduit en dessous est amianté.
Mais parfois c'est impossible techniquement, non?
Oui, les couches ont fusionné ou l'échantillon est trop fin. Si le laboratoire écrit noir sur blanc qu'il ne peut pas dissocier les couches et qu'une seule contient de l'amiante, la loi est claire.
On contamine tout?
La totalité du prélèvement, et donc la totalité du matériau sur le chantier, est juridiquement considérée comme contaminée.
Oh là là. Mais pour l'entreprise, ça veut dire que le volume de déchets toxiques explose.
Complètement. Au lieu de gratter 1 mm d'enduit, vous devez traiter toute la paroi, le plâtre, le ciment, la peinture, comme un déchet amianté. Les méthodes d'arrachement sont plus lourdes, la pénibilité pour les gars est accrue et le coût d'enfouissement est multiplié.
C'est le jour et la nuit en termes de devis.
C'est pour ça que l'entreprise doit repérer ça dès la lecture du RAT et l'intégrer dans son chiffrage et son plan de retrait.
En arrivant au terme de cette analyse, je prends vraiment la mesure de ce document. La RT01, ce n'est pas juste une recommandation de lecture.
Non, c'est le socle technique indispensable.
Il est là pour protéger la responsabilité pénale des dirigeants et la santé des opérateurs. Il impose une exigence absolue face aux donneurs d'ordre.
C'est la seule démarche systémique capable de réduire ce qu'on appelle l'aléa amiante.
Ce qui soulève une réflexion finale et vraiment cruciale pour l'auditoire, surtout pour les professionnels qui préparent des appels d'offres. On vient de voir à quel point débusquer une incohérence ou une zone d'impact indirect ignorée, ça demande un temps fou.
C'est un vrai travail d'enquêteur.
Absolument. Alors, posez-vous la question. L'organisation de votre propre entreprise laisse-t-elle véritablement le temps nécessaire à vos équipes d'études pour réaliser cette lecture critique et croisée du ART et des plans avant de chiffrer un chantier?
C'est la question centrale.
Face à un aléa amiante qui peut détruire la rentabilité d'un projet ou pire, mettre en péril la santé de vos équipes, ce temps passé en amont sur la RT01 n'est plus une option. C'est une nécessité vitale pour anticiper les désastres financiers humains. À vous d'auditer vos propres procédures internes.